Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Désormais, il faut améliorer les conditions de vie des magistrats qui riment avec leur indépendance et la paix dans le pays. C'est le vœu du bâtonnier national Matadi Wamba. Il l'a exprimé aujourd'hui à Kinshasa à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Déjà 6 ans se sont écoulés depuis le premier massacre des civils dans la ville de Beni. Occasion pour les groupes de pression de réclamer justice pour les victimes et la fin des tueries dans la région. Une marche a été organisée dans ce sens à Beniville. Et puis, crise persistante au sein du parti lumumbiste unifié Palou. Un congrès en vue pour dénouer la situation. Pour en parler, nous recevons Dorothée Gizenga, présidente du comité d'organisation de ce congrès. Madame, Messieurs, bonsoir. Le premier président de la Cour de cassation soulève la nécessité de réformer le régime des privilèges de juridiction et des immunités des poursuites dont les bénéficiaires jouissent de l'impunité. Il a donné de la voix au cours de l'audience publique solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation aujourd'hui à Kinshasa. C'était devant le premier ministre et représentant personnel du chef de l'État, mais en l'absence des présidents des deux chambres du Parlement. Outre son discours, le procureur général près la Cour de cassation a dans sa main Mercurial parlait de l'injonction du ministre de la Justice au ministère public, tandis que le bâtonnier national et président du Conseil de l'Ordre national des avocats a récapitulé sur ses différentes plaidoiries depuis 1999 en insistant sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la paix en RDC. Jeff Ngoy, reportage.
Pour le bâtonnier national Matadi Wamba, on entend tirer à boulet rouge sur les magistrats. Désormais, il faut améliorer leurs conditions de vie qui riment avec leur indépendance et la paix dans le pays.
On a toujours tiré à boulet rouge sur la magistrature, ai-je dit à l'époque. Il fallait désormais, ai-je dit, tirer le magistrat de la situation qui est la sienne depuis des années, sans bureau et sans salaire décent.
Dans sa mercuriale, le procureur général Victor Mumba explicite les notions du pouvoir d'injonction qui doit être positive sans amoindrir l'action du ministère public.
Cette injonction est motivée et mentionne le ou les moyens le procureur général peut, s'il est chef, invoquer à l'appui de son réquisitoire.
Le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, enfonce le clou. Il fustige ceux qui se cachent derrière leurs immunités et privilèges qu'il s'y est de revoir.
Les immunités de poursuite et les privilèges de juridiction présentent des effets néfastes. Nous pensons qu'il faut absolument réformer leurs règles, car nul n'a de droit acquis au statu quo, et l'idée d'une réforme ne fait outrage qu'à ceux qui ne supporteraient pas d'être privé d'un droit contestable.
Ce haut magistrat dénonce donc les effets pervers de ces immunités qui ne devront plus se limiter qu'aux opinions émises pendant l'exercice des fonctions parlementaires.
Nous sommes le 15 octobre aujourd'hui. Cela fait exactement 6 ans depuis le premier massacre des civils dans la ville de Beni. Pour commémorer cette date, sur initiative de la jeunesse du quartier Ngadi, une messe a été dite à cette occasion au stade de ce quartier. Plusieurs notabilités de Beni ont pris part à cette messe, notamment le bourgmestre de la commune de Rwenzori, les responsables du secteur des opérations Sokola 1, ceux de la société civile et quelques députés provinciaux. Dans son homélie, l'officiant du jour a demandé à la population de soutenir et de faire confiance au FARDC afin de mettre fin au massacre des populations civiles dans la région. Plus tôt dans la journée, des manifestations ont été organisées par des groupes de pression pour commémorer ce triste anniversaire et réclamer la sécurité dans la région. Reportage de Martial Papi Mukeba.
Je suis Beni et la Lucha sont les deux groupes de pression à organiser ces manifestations pour commémorer cette journée. Quelques dizaines de militants de la Lucha ont débuté tôt leur marche à Ngadi. C'est dans ces quartiers situés à l'est de la ville qu'au moins 27 civils ont été tués à l'arme blanche et par balle le 15 octobre 2014 dans une attaque attribuée aux ADF. Avant leur départ pour la ville, Stewart Muindo, un des leaders du mouvement, a indiqué à Radio Okapi que l'objectif L'objectif de cette marche était de réclamer la justice pour les victimes et la fin des tueries des civils dans la région.
Un message de demande de la justice, parce que jusque-là, celui qui tue n'a jamais été sanctionné. Des demandes de réparation, parce que jusque-là, les victimes, les proches des victimes n'ont jamais reçu réparation. Nous demandons aussi sécurité, parce que jusqu'à présent, ça fait évidemment 6 ans que d'autres massacres sont en train de se commettre à travers la ville de Beni et le territoire de Beni.
Les militants de la Lucha, avant d'atteindre la ville, ont fait escale à l'entrée de la base Monisco de Madiba à Boïkéné, où ils ont été reçus par les chefs de bureau adjoints de la Monisco, à qui ils ont exprimé leur désir de voir la Monisco partir. Pour leur part, les militants du groupe de pression Je suis Béni ont fait mouvement vers Ngadi, où une messe d'action de grâce devrait être célébrée à la demande de la jeunesse locale de ces quartiers. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Autre commémoration aujourd'hui 15 octobre, c'est la Journée internationale de la femme rurale. À Boutembo, c'est l'occasion pour le chef de bureau urbain du service genre, famille et enfants de plaider pour la création des industries de transformation des produits alimentaires en vue de l'épanouissement économique de la femme rurale. Pour sa part, la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo appelle le gouvernement congolais à restaurer la sécurité dans la région. Florida Kahambu nous en dit plus.
Pour Mabanza Dibi Odile, chef de bureau urbain des genres, famille et enfants, il est douloureux de voir des femmes rurales parcourir de longues distances pour atteindre les lieux d'écoulement de leurs produits champêtres. En plus de cela, elles les vendent à vil prix. D'où la nécessité de créer des industries de transformation des produits alimentaires pour pallier ces problèmes.
Nous venons de faire une note de plaidoyer adressée au ministre de l'Industrie pour qu'il y ait quand même la création des industries transformatives de leurs produits de champ pour qu'en fait, elles soient capables de gagner quelque chose.
De son côté, Kahambu Vueru Bénigne, présidente de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, indique que nombreuses femmes rurales du Grand Nord Kivu vivent maintenant en ville après avoir fui leur champ suite à l'insécurité. Elle appelle le gouvernement congolais à leur garantir la sécurité.
La Lofepako recommande au gouvernement d'instaurer la sécurité. Les paysans ont beaucoup perdu. Puisqu'il y a même ceux-là qui ont abandonné leur champ de cacao, leur champ de café et la plupart sont en ville.
Pour célébrer cette journée, la Lofepako a réuni des femmes rurales à Moulo, en territoire de Lubero, afin de faire un monitoring sur les violences faites à l'égard de la femme rurale dans cette région en proie à l'insécurité. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Et dans la série de nos reportages sur le quotidien de la femme rurale congolaise, nous vous proposons aujourd'hui un nouveau reportage sur les défis auxquels font face les femmes rurales de Kimwenza, ici à Kinshasa. Elles éprouvent d'énormes difficultés pour l'accès au financement et à la terre. Des précisions avec Nana Bouloudjoua et Ale Eomoto.
Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la femme rurale. Qu'elle soit agricultrice ou éleveur, elle rencontre les mêmes difficultés au quotidien. Nous les avons rencontrées à cette occasion et la vice-présidente du réseau des femmes dans les ressources animales pour la zone Afrique centrale, Madame Rosalie Biuma, nous explique.
Les défis que nous sommes en train de traverser au niveau des ressources animales, il y a les changements climatiques. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Il y a l'insécurité, il y a le vol, il y a cet accès aussi à la terre qui pose d'énormes problèmes. Il y a des confusions avec des chefs coutumiers. Il y a des confusions avec lui-même l'État par rapport à la loi foncière qui n'est même pas encore vulgarisée, que nous connaissons même pas. Qu'est-ce que ça dit au juste?
Monsieur Patrick Congo, au directeur général adjoint de FPM pour l'inclusion financière en RDC, donne quelques pistes de solutions sur la question des financements.
Il y a beaucoup de pistes de solutions qui peuvent être exploitées. Il serait idéal que les femmes rurales se mettent en groupe et identifient l'offre liée à leur profil. Il est important aussi, des fonds comme les nôtres, d'élever des ressources pour accompagner l'inclusion financière de cette femme-là.
La Journée internationale de la femme rurale est sans doute l'occasion de faire un état des lieux sur ces questions qui freinent l'essor de l'entrepreneuriat de toutes ses mains vertes.
Toujours à l'occasion de la journée consacrée à la femme rurale, dans son message à la nation, la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants rappelle que cette catégorie des femmes représente 70% de la force du travail agricole et qu'elle joue un rôle primordial dans l'éradication de la faim. Selon elle, la situation de la femme rurale reste l'une des priorités du gouvernement. Un extrait de l'adresse de la ministre Béatrice Lomea, choisie par Pele Kipela Mondo.
Cette journée est célébrée en reconnaissance du rôle et de l'apport décisif des femmes rurales dans la promotion du développement agricole, dans l'amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que l'élimination de la pauvreté en milieu rural. En République démocratique du Congo, la femme rurale représente 70% de la force de travail agricole. Par conséquent, elle joue un rôle primordial en vue d'éradiquer la faim. Elles font preuve d'une impressionnante résilience. Elles cultivent les champs, collectent l'eau et les bois et prennent soin de leur famille. Elles ont ainsi la capacité d'améliorer non seulement les conditions de vie de leur famille, mais également celles de leur communauté. La célébration de cette journée dédiée à la femme rurale témoigne de l'attention particulière accordée par le gouvernement de la République dans ses prises de décisions en faveur de l'entrepreneuriat féminin pour l'autonomisation des femmes rurales, de par leur rôle dans la vie socio-économique de la nation en tant que mère, épouse et agent de production. Notre gouvernement souligne la nécessité de faire de la situation de la femme rurale une priorité dans le cadre du plan national stratégique de développement.
Parlons environnement à présent. Les espèces aquatiques du fleuve Congo subissent des sérieuses menaces toxiques de la part de certaines usines quinoises qui rejettent des eaux usées non décontaminées. Parmi les premières conséquences directes, souvent décriées par les pêcheurs et riverains, c'est la mort des poissons causant la raréfaction de cet aliment à cause de la pollution que subit le fleuve. Un constat fait mercredi par le ministre congolais de l'Environnement et ses services lors de la visite de quelques usines, notamment les sociétés brassicoles Bracongo, Bralima ainsi que Orbit au quartier Kingabwa, situation que nous présente Billy Van Lutumba dans ce reportage.
Les îles existent depuis très longtemps, mais pourquoi depuis tout ce temps ils n'ont pas pensé à ça?
Madame, j'espère que mes services ont accès à vos installations.
Les fonds à tout moment.
Oui, dernièrement, on a fait des analyses de
Il y a une pollution.
Kingabwa, alors que les machines de la Bracongo tournent à plein régime, à l'arrière de la concession, le long du fleuve, devant une évacuation non conçue des effluents de l'usine, la directrice de l'assainissement aux côtés du ministre discute avec les gestionnaires qui tempèrent car un projet environnemental est en vue.
Nous avons connu une étude d'impact environnemental qui nous a donné un moratoire pour la construction de l'usine. C'est ainsi que nous avons commandé des équipements.
Plus loin vers 17e rue industrielle, Orbit est une usine de fabrication d'eau et aussi des cosmétiques.
Les eaux du couvent de l'usine sont de l'autre côté là-bas.
Elles sont traitées.
Donc c'est un traitement primaire.
C'est bien dit, le vrai traitement n'est pas fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne vais pas le nier. Il y a des imperfections qu'on pourra aménager pour atteindre le seuil acceptable.
Bralima est parmi les usines visitées. Une construction des recueillements des eaux de l'usine servant de pisciculture est présentée. C'est pour justifier la non-toxicité de leurs effluents pour la biodiversité. Toutefois, une contre-vérification est exigée.
Qu'une place, ce sont eux qui récupèrent le déchet en plastique.
Quelqu'un qui fabrique les plateaux qu'on utilise pour les œufs doit traiter et les étiquettes de façon à les transformer. On pourra donner un contrat avec l'abalement.
Il revient de se tourner que les effluents des usines sont bel et bien déversés dans le fleuve Congo, mais il reste à déterminer leur niveau de toxicité.
Et en réaction à cette pollution, désapprobation, regret et mise en garde, c'est l'essentiel de la réaction du gouvernement congolais par l'entremise de son ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Nyamugabo, conseille tous ses investisseurs non en règle de se conformer aux prescrits de loi sur la protection de la biodiversité et de l'environnement de manière générale. Le ministre de l'Environnement est au micro de Billy Van Lutumba.
Nous avons lancé avec la vice-ministre et la ministre provinciale de l'Environnement l'inspection de l'impact de toutes les usines sur l'environnement à Kinshasa. Nous avons commencé par les brassicoles et ici nous sommes dans une entreprise qui est dans les cosmétiques. Je donne raison à notre population qui nous a adressé beaucoup de plaintes en rapport avec la pollution des eaux à Kinshasa. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des entreprises qui ne traitent même pas les eaux qui viennent des usines. Ces eaux sont jetées directement dans le fleuve Congo, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent sur la vie de la biodiversité. La loi portant principes fondamentaux pour la protection de l'environnement a prévu des sanctions et ces sanctions vont être appliquées à toutes ces entreprises et tiendront compte du niveau de pollution qui est opéré par ces entreprises. Sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture pure et simple de l'entreprise qui pollue les eaux du fleuve Congo.
Et puis cette bonne nouvelle pour le Kasaï oriental, la société minière de Bakwanga, Miba, a produit hier 78 carats de diamants. C'est la première production que la Miba obtient après une année d'arrêt des activités minières au sein de polygones miniers. D'autres explications avec Esther Ndalafina.
La première reproduction du diamant apporte un ouf de soulagement à la population qui s'inquiétait de la chute de l'entreprise minière, alors poumon de l'économie de la province. Les autorités de l'entreprise étaient ce mercredi au polygone minier pour voir et aussi présenter la première production. Paulin Lukusa, administrateur, directeur général ad intérim, annonce la poursuite des travaux de production.
C'est depuis hier qu'on a produit 78 carats. C'est le démarrage. La machine a été à l'arrêt il y a un an déjà et là nous sommes en train de reprendre. On va continuer à produire et ça ira croissant.
La production reprend avec les concentrés qui étaient gardés dans les pipelines lors de l'arrêt des travaux il y a de cela une année. Oui, après le traitement des concentrés, il y a lieu toujours de compter sur l'AMIBA, affirme son directeur technique. Selon Corneille Mbikai, l'AMIBA compte près de 13 à 14 massifs kimberlitiques sur lesquels les résultats des sondages des teneurs et des structures sont satisfaisants.
Pour le massif 1, nous avons fait presque 197 sondages. Les gens de Geostar sont venus réévaluer. Ils sont allés autour de 150 000 carats. 200 mètres de profondeur, nous sommes autour de 45 millions de carats.
Pour permettre à l'AMIBA de reprendre totalement, quelques organisations non gouvernementales souhaitent que les moyens conséquents lui soient octroyés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, mourait assassiné Thomas Sankara, ancien président de ce pays. 33 ans après, dans le cadre de ce triste anniversaire, le documentaire dénommé « Les orphelins de Sankara » de Géraldine Berger est projeté à Ouagadougou au mémorial Thomas Sankara. Ce film revient sur une histoire incroyable et méconnue, l'envoi à Cuba par Sankara de quelques 600 enfants défavorisés pour qu'ils aillent étudier des disciplines utiles et reviennent ensuite participer au développement de leur pays. Géraldine Berger, qui a découvert cette histoire totalement par hasard, a fait témoigner ses orphelins à cette occasion. Covid-19, au lendemain de l'annonce par le président français Emmanuel Macron de couvre-feu nocturne en Île-de-France et dans 8 métropoles, le Premier ministre Jean Castex a procédé à une explication de texte ce jeudi. Les commerces, services et lieux recevant du public seront fermés dans les départements et métropoles où va être mis en place à partir de vendredi minuit un couvre-feu sanitaire courant de 21h à 6h, sauf exception, a précisé le ministre. À 21h, chacun devra être chez soi, a indiqué le Premier ministre. Les établissements de santé, médico-sociaux ou encore les restaurants pratiquant la livraison à domicile bénéficieront d'exemption.
L'invité.
Je vous le disais en titre, crise persistante au sein du parti lumumbiste unifié PALU, cela depuis le décès du secrétaire permanent Lugo Gizenga. Certains militants et cadres du parti accusent le bureau politique de prendre en otage le parti pour leurs intérêts égoïstes. Et pour mettre fin à cette crise, un congrès, le deuxième depuis la création du PALU, est convoqué à partir du 31 octobre prochain. Et pour en parler, nous recevons Dorothée Gizenga, présidente du comité d'organisation de ce congrès. Elle est avec Michel Kifi.
Madame Dorothée Gizenga, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie l'organisation de ce congrès qui intervient 56 ans après le tout dernier tenu du vivant du patriarche Antoine Gizenga?
Bon, il est évident que nous avons perdu notre secrétaire général, chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga, et à sa perte, nos statuts indiquent dans l'article 22 que la seule façon de remplacer un secrétaire général, c'est par l'organisation d'un congrès. Cependant, pour pouvoir se représenter auprès des entités tierces et nos partenaires et au gouvernement, le bureau politique au décès du patriarche avait nommé les secrétaires permanents qui étaient en ce moment-là Lugi Gizenga, connu comme B17 selon sa carte de membre, comme le secrétaire général AI. Il a maintenu aussi son poste de secrétaire permanent porte-parole. Malheureusement, nous avons connu aussi un deuxième décès, donc du secrétaire général AI, Lugi Gizenga, 1er juin 2020. Cette perte a précipité même la nécessité d'un congrès, a souligné la nécessité davantage, car au lendemain de son décès, le parti a eu une crise visible. Il y a eu la course au leadership, alors il a fallu absolument remettre les choses sur les rails et indiquer que non, nous allons aller à un congrès. Et très heureusement, avant son décès, le secrétaire général AI, Lugi Gizenga, avait nommé une commission préparatoire du congrès dont je suis moi, et à l'époque j'étais coordonnatrice, et à partir de maintenant je suis présidente du comité préparatoire. C'est avec ce mandat qui m'a été donné que j'ai pris la détermination qu'on ne pouvait pas dévier de ce chemin.
Qu'est-ce que vous visez concrètement à travers ce congrès?
Nous voulons un congrès qui restructure le parti tout en gardant sa vision lumumbiste, mais restructure le parti à être efficace, efficient, que le leadership se remet en ordre et se met en ligne avec nos idéaux lumumbistes, les valeurs et les principes sur lesquels le parti avait été créé soient respectés. Notre analyse de la situation a démontré que nous avons dévié de tous les principes et valeurs de notre parti, que le leadership actuel est en fait égaré.
Combien de participants sont attendus? Qui sont-ils?
Alors, nous avons à peu près 500 participants et nous avons innové parce que les statuts limitent seulement un nombre de personnes, c'est-à-dire le bureau politique, les représentants extérieurs du parti et une délégation des secrétaires provinciaux. Il est temps de démocratiser le parti. Surtout, après 56 ans, on ne peut pas limiter la présence des gens à seulement ce groupe-là.
Pourquoi certains ténors du parti lumumbiste unifié ne veulent pas prendre part à ce congrès?
Je dois vous dire que ceux qui ne veulent pas prendre part, c'est le sommet. Donc c'est la direction d'aujourd'hui. Si vous demandez les militants, ils ont soif d'un congrès. Parce qu'il y a une rupture entre notre sommet et la base. Nous devons réunir les deux. Les thèmes que nous allons discuter dans ce congrès vont nous permettre de rapprocher les militants de leur direction.
Ne craignez-vous pas que vous soyez taxé d'avoir fait un passage en force?
Il me semble qu'un passage en force est nécessaire. Qui dit que c'est la direction qui doit décider? Eux ne sont que, disons, une vingtaine de personnes, alors que le parti est des milliers, des centaines de milliers de membres. Mon devoir, c'est d'amener le parti au congrès pour que tout le monde se retrouve, pas seulement certains individus qui sont habitués à être aux mangeoires. Le congrès, nous devons y aller et un nouveau leadership va être élu, un nouveau leadership qui va servir tout le monde.
Comment se profile l'avenir du parti après la mort du patriarche Antoine Gizenga, qui d'ailleurs incarnait à la fois l'idéologie, le charisme et même l'espoir de ce parti?
Il faut d'abord faire le premier pas. Le premier pas, c'est de mettre un bon leadership. Un leadership qui respecte les idéaux de nos pères fondateurs du Parti lumumbiste unifié. Parce que maintenant, on confond la soif du pouvoir, la soif de l'argent avec les idéaux de notre parti.
Madame Dorothée Gizenga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Michel Kifindangoy. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, supervisé par Axel Goncho, coordination de Noëlla Luzitu Kabambi. Mimi Kindo était à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.
Okapi Sport.
Bonsoir chers amis sportifs, Ligue Nationale de Football, l'INAFOOT Division 1. À Kinshasa, l'ES Maniema Union de Kindu a pris provisoirement la tête du classement.